Germaine, chapitre 10. La crise. L'époque la plus heureuse dans la vie d'une jolie fille est l'année qui précède son mariage. Toute femme qui voudra bien rappeler ses souvenirs reverra avec un sentiment de regret cet hiver béni entre tous où son choix était fait, mais ignoré du monde. Une foule de prétendants timides et indécis s'empressait autour d'elle, se disputait son bouquet ou son éventail, et l'enveloppait d'une atmosphère d'amour qu'elle respirait avec ivresse. Elle avait distingué dans la foule l'homme à qui elle voulait se donner. Elle ne lui avait rien promis, elle éprouvait une certaine joie à le traiter comme les autres et à lui cacher sa préférence. Elle se plaisait à le faire douter du bonheur, à le promener de l'espérance à la crainte, à l'éprouver un peu chaque soir. Mais, au fond du cœur, elle lui immolait tous ses rivaux et déposait à ses pieds tous les hommages qu'elle feignait d'accueillir. Elle se promettait de payer richement tant de persévérance et de résignation. Et surtout, elle savourait ce plaisir éminemment féminin de commander à tous et d'obéir à un seul. Cette période triomphale avait manqué à la vie de Germaine. L'année qui précéda son mariage avait été la plus triste et la plus misérable de sa pauvre jeunesse. Mais l'année qui suivit lui apporta quelques dédommagements. Elle vivait à Corfou dans un cercle d'admiration passionnée. Tous ceux qui l'approchaient, vieux et jeunes, éprouvaient pour elle un sentiment voisin de l'amour. Elle portait sur son beau front ce signe de mélancolie qui apprend à tout le monde qu'une femme n'est pas heureuse. C'est un attrait auquel les hommes ne résistent guère. Les plus hardis craignent de s'offrir à celle qui paraît ne manquer de rien. Mais la tristesse enhardit les plus timides, et c'est à qui essaiera de les consoler. Les médecins ne manquaient pas à cette jeune âme affligée. Le jeune Dandolo, un des hommes les plus brillants des sept îles, l'entourait de ses soins, l'éblouissait de son esprit et lui imposait son amitié superbe avec l'autorité d'un homme qui a toujours réussi. Gaston de Vitré promenait autour d'elle une sollicitude inquiète. Le bel enfant se sentait naître à une vie nouvelle. Il n'avait rien changé à ses habitudes, ses travaux et ses plaisirs marchaient du même pas qu'autrefois. Mais lorsqu'il lisait auprès de sa mère, il voyait luire des soleils entre les pages du livre. Il s'arrêtait comme ébloui au milieu de sa lecture. Il rêvait à propos d'un vers qui ne l'avait jamais frappé. Le baiser du soir qu'il donnait à Madame de Vitré brûlait le front de sa mère. Lorsqu'il priait, à genoux, la tête appuyée contre son lit, il voyait passer entre ses yeux et ses paupières des images étranges. Il ne dormait plus tout d'une pièce comme autrefois. Son sommeil était entrecoupé. Il se levait bien avant le jour et courait dans la campagne avec une impatience fébrile. Son fusil était plus léger sur son épaule. Ses pieds couraient plus lestement dans les herbes desséchées. Il s'aventurait plus loin sur la mer et ses bras, plus robustes, se réjouissaient de pousser les avirons. Mais, quel que fût le but de sa promenade, un charme invisible le jetait tous les jours dans le voisinage de Germaine. Il y arrivait par terre et par mer. Il se tournait vers elle comme la boussole vers l'étoile, sans avoir conscience du pouvoir qui l'attirait. On l'accueillait en ami, on avait du plaisir à le voir, et l'on ne s'en cachait pas. Cependant, il était toujours pressé de partir. Il n'entrait qu'en passant. Sa mère l'attendait. Il s'asseyait à peine. Mais le soleil couchant le trouvait encore auprès de la chair convalescente, et il s'étonnait de voir que les journées fussent si courtes au mois d'août. Monsieur Stevens, homme pesant, corps grave, marquait le pas derrière le fauteuil de Germaine comme un régiment d'infanterie. Il avait pour elle ces attentions réfléchies et mesurées qui font la force des hommes de 50 ans. Il lui apportait des bonbons et lui contait des histoires. Il lui prodiguait ces petits soins auxquels une femme n'est jamais insensible. Germaine ne méprisait pas cette bonne grosse amitié, paternelle dans la forme, moins paternelle cependant que celle du docteur Delvin Otis. Elle récompensait aussi d'un doux regard le capitaine Bretinière, cet excellent homme à qui il ne manquait qu'un plumet. Elle se réjouissait de le voir courir autour d'elle avec tout le fracas d'une fantasia arabe. Elle avait une amitié bien tendre pour monsieur Lebris, et le petit docteur, accoutumé à faire une cour innocente à toutes ses malades, ne savait pas au juste ce qu'il éprouvait pour la jeune comtesse de Villanera. Elle changeait à vue d'œil, et cette beauté renaissante pouvait emporter en un instant la fragile barrière qui sépare l'amitié de l'amour. Tous ces sentiments, mal définis et plus difficiles à nommer qu'à décrire, faisaient la joie de la maison et le bonheur de Germaine. Elle trouvait une grande différence entre son dernier hiver de Paris et son premier été de Corfou. La villa et le jardin respiraient la gaieté, l'espérance et l'amour. On entendait des éclats de voix et des éclats de rire. Tous les hôtes rivalisaient d'esprit et de bonne humeur. Et Germaine se sentait renaître à la douce chaleur de tous ces cœurs dévoués qui battaient pour elle. Si elle prit soin d'attiser le feu par une innocente coquetterie, c'est qu'elle tenait à s'assurer la conquête de son mari. Les souvenirs pénibles de son mariage s'étaient peu à peu effacés de sa mémoire. Elle avait oublié la cérémonie lugubre de saint Thomas d'Aquin et elle se regardait comme une fiancée qu'on attend pour aller à l'église. Elle ne pensait plus à madame Chermidy. Elle n'éprouvait pas ce froid intérieur que donne la crainte d'une rivale. Son mari lui apparaissait comme un homme nouveau. Elle croyait être une femme nouvelle, née d'hier. N'est-ce pas naître une seconde fois que d'échapper à une mort certaine? Elle faisait remonter sa naissance au printemps. Elle disait en souriant « Je suis une enfant de 4 mois ». La vieille comtesse la confirmait dans cette idée, en la prenant dans ses bras comme une petite fille. Ce qui aurait pu la rappeler à la réalité, c'est la présence du marquis. Il était difficile d'oublier que cet enfant avait une mère, et que cette mère pouvait venir un jour ou l'autre réclamer le bonheur qu'on lui avait pris. Mais Germaine s'était accoutumée à regarder le petit Gomez comme son fils. L'amour maternel est si bien inné chez les femmes qu'il se développe longtemps avant le mariage. On voit des petites filles de 2 ans offrir le sein à leur poupée. Le marquis de Los Montes de Hierro était la poupée de Germaine. Elle se négligeait elle-même pour s'occuper de son fils. Elle avait fini par le trouver beau, ce qui prouve qu'elle avait un vrai cœur de mère. Don Diego la regardait avec complaisance lorsqu'elle serrait dans ses bras ce petit gnome basané. Il se réjouissait de voir que la grimace héréditaire des Villanera ne faisait plus peur à sa femme. Tous les soirs, à 9 heures, les maîtres et les valets se réunissaient au salon pour prier en commun. La vieille comtesse était fort attachée à cet usage religieux et aristocratique. Elle lisait les oraisons elle-même en latin. Les domestiques grecs s'associaient dévotement à la prière commune, malgré le schisme qui les sépare des chrétiens d'Occident. Mathieu Mantoux s'agenouillait dans un coin obscur, d'où il pouvait tout voir sans être vu, et de là, il cherchait à lire les ravages de l'arsenic sur la figure de Germaine. Il n'avait pas manqué une seule fois d'empoisonner le verre d'eau qu'il lui apportait tous les soirs. Il espérait que l'arsenic pris à petite dose accélérerait le progrès de la maladie sans laisser de traces visibles. C'est un préjugé répandu dans les classes ignorantes. On croit à l'action des poisons lents. Maître Mantoux, justement surnommé peu de chance, ne pouvait pas savoir que le poison tue les gens d'un seul coup, ou point. Il croyait que les milligrammes d'arsenic ingérés dans le corps s'additionnaient à la longue pour former des grammes. Il comptait sans le travail infatigable de la nature, qui répare incessamment tous les désordres intérieurs. S'il avait pris une meilleure leçon de toxicologie, ou s'il s'était rappelé l'exemple de Mithridate, il aurait compris que les empoisonnements microscopiques produisent un tout autre effet que celui qu'il espérait. Mais Mathieu Mantoux n'avait pas lu l'histoire. Ce qui l'aurait encore étonné davantage, c'est que l'arsenic, absorbé à petite dose, est un remède contre la phtisie. Il ne la guérit pas toujours, mais du moins, il procure un vrai soulagement aux malades. Les molécules de poison viennent se brûler dans les poumons au contact de l'air extérieur et produisent une respiration factice. C'est quelque chose que de respirer à l'aise, et Germaine le sentit bien. L'arsenic coupe la fièvre, ouvre l'appétit, facilite le sommeil, rétablit l'embonpoint. Il ne nuit pas à l'effet des autres remèdes, il y aide quelquefois. Monsieur Lebris avait pensé souvent à traiter Germaine par cette méthode, mais un scrupule bien naturel l'avait arrêté en route. Il n'était pas sûr de sauver la malade, et ce diable d'arsenic lui rappelait Madame Chermidy. Mathieu Mantoux, docteur moins timoré, accéléra les effets de l'iode et la guérison de Germaine. Germaine aspira de l'iode pur depuis le 1er août jusqu'au 1er septembre. Le docteur assistait chaque matin à l'inspiration. Monsieur Delvignotis lui tenait souvent compagnie. Ce mode de traitement n'est pas infaillible, mais il est doux et facile. Un courant d'air chaud dissout lentement un centigramme d'iode et la porte sans effort et sans douleur jusque dans les poumons. L'iode pur n'enivre pas les malades comme la teinture d'iode. Il ne dessèche pas la bouche comme l'éther iodhydrique. Il ne provoque pas la toux. Son seul défaut est de laisser dans la bouche un petit goût de rouille, auquel on se fait aisément. Monsieur Lebris et Monsieur Delvignotis accoutumèrent doucement Germaine à ce médicament nouveau. Dans son impatience de guérir, elle aurait voulu brusquer son mal et l'emporter de vive force. Mais ils ne lui permirent qu'une inspiration tous les matins et de très courte durée. 3 minutes, 4 au plus. Avec le temps, ils augmentèrent la dose et à mesure que la guérison s'avançait, ils donnèrent jusqu'à 2 centigrammes par jour. La cure marchait avec une rapidité incroyable, grâce à la collaboration discrète de Mathieu Mantoux. Un étranger qui se serait fait présenter à la villa d'Andolo n'aurait pas deviné qu'il y avait une malade. À la fin du mois d'août, Germaine était fraîche comme une fleur, ronde comme un fruit. Dans ce beau jardin où la nature avait accumulé toutes ses merveilles, le soleil ne voyait rien de plus brillant que cette jeune femme toute neuve qui sortait de la maladie comme un bijou de son écrin. Non seulement les couleurs de la jeunesse refleurissaient sur son visage, mais la santé métamorphosait tous les jours les formes amaigries de son corps. Les douces ondées d'un sang généreux gonflait lentement sa peau rose et transparente. Tous les ressorts de la vie, relâchés par 3 années de douleur, se tendaient avec une joie visible. Les témoins de cette transfiguration miraculeuse bénissaient la science comme on bénit Dieu. Mais le plus heureux de tous était peut-être le docteur Lebris. La guérison de Germaine apparaissait aux autres comme une espérance, à lui seul, comme une certitude. En auscultant sa chère malade, il vérifiait tous les jours la décroissance du mal. Il voyait la guérison dans ses effets et dans ses causes. Il mesurait comme au compas le terrain qu'il avait gagné sur la mort. L'auscultation, méthode admirable que la science moderne doit au génie d'Hippocrate, permet au médecin de lire à livre ouvert dans le corps de son malade. Les ressorts invisibles qui s'agitent en nous produisent dans leur marche régulière un bruit aussi constant que le mouvement d'une pendule. L'oreille du médecin, lorsqu'elle s'est accoutumée à entendre cette harmonie de la santé, reconnaît à des signes certains le plus petit désordre intérieur. La maladie se raconte et s'explique elle-même à l'observateur intelligent. Il assiste au progrès de la vie ou de la mort, comme le témoin caché derrière une porte devine les moindres incidents d'un combat ou d'une querelle. Un somate désigne au médecin les parties du poumon où l'air ne pénètre plus. Un râle particulier lui indique ces cavernes envahissantes qui caractérisent la dernière période de la phtisie. Monsieur de Brie reconnut bientôt que les parties imperméables à l'air se circonscrivaient de jour en jour, que le râle s'éteignait peu à peu, que l'air rentrait en chantant dans les cellules vivifiées qui enveloppaient les cavernes cicatrisées. Il avait dessiné pour la vieille comtesse la carte exacte des ravages que la maladie avait fait dans la poitrine de la jeune femme. Tous les matins, il traçait au crayon un nouveau contour qui attestait le progrès quotidien de la guérison. Balzac a supposé un étrange malade dont la vie, figurée par une peau de chagrin, va se rétrécissant chaque jour. Le dessin du docteur Lebris se rétrécissait tous les matins pour le salut de Germaine. Le 31 du mois d'août, Monsieur Lebris, heureux comme un vainqueur, donna un coup de pied jusqu'à la ville. La campagne était de son goût, mais il ne dédaignait pas un petit tour sur l'esplanade, au son des fifres et des cornemuses militaires. En regardant la fumée des bateaux à vapeur, il croyait se rapprocher de Paris. Il dînait volontiers à la table des officiers anglais. Volontiers, il se promenait dans les rues marchandes. Il admirait les soldats, tout de blanc habillés, avec un chapeau de paille, des gants jaunes et des souliers vernis, à l'heure où ces braves gens, suivis de leur petite famille, vont acheter leurs tranches de jambon et leur pain à sandwich. Il reposait ses yeux sur d'admirables étalages de fruits verts que les marchands entretiennent dans une propreté anglaise. L'un frotte des prunes sur sa manche pour les faire reluire, l'autre étrille avec une brosse à chapeau le velours rose des pêches. C'est un admirable tohu-bohu de melons gros comme des citrouilles, de citrons gros comme des melons, de prunes grosses comme des citrons, et de raisins gros comme des prunes. Peut-être aussi le jeune docteur lorgnait-il, avec une certaine complaisance, les jolis Grecs accoudés sur leurs fenêtres dans un cadre de cactus en fleurs. Dans ce pays de bonhomie, les petites bourgeoises ne se font pas scrupule d'envoyer des baisers à l'étranger qui passe, comme les bouquetières de Florence lui lancent des bouquets dans sa voiture. Si leur père les aperçoit, il les soufflette rudement au nom de la morale, et cela donne un peu de variété au tableau. Tandis que le docteur vaquait innocemment à ses plaisirs, le comte Dandolo, le capitaine Bretinière et les Vitré dînaient ensemble chez monsieur de Villanera. Germaine mangeait de bon appétit. C'était Gaston qui perdait le goût du pain. Il dînait des yeux, le pauvre petit homme. Il n'était ni au repas ni à la conversation, mais à Germaine. Cependant, la conversation devint fort intéressante au dessert. Monsieur Dandolo décrivit à grands traits la politique anglaise dans l'Extrême-Orient, montra la grande nation établie à Hong Kong, à Macao, à Canton et partout. « Vous verrez, dit-il, ou du moins vos enfants verront, les Anglais maîtres de la Chine et du Japon. » Halte-là, interrompit le capitaine Bretinière. Qu'est-ce que nous donnerons à la France? Tout ce qu'elle demandera, c'est-à-dire rien. La France est un pays désintéressé. Elle passe sa vie à conquérir le monde, mais elle se ferait un scrupule de rien garder pour elle. Entendons-nous, monsieur le comte, la France a toujours manqué d'égoïsme. Elle a plus fait pour la civilisation qu'aucun autre pays de l'Europe, et elle n'a jamais demandé son salaire. L'univers est notre débiteur. Nous le fournissons d'idées depuis 300 ou 400 ans, et l'on ne nous a rien donné en échange. quand je pense que nous n'avons pas seulement les îles Ioniennes. Vous les avez eues, capitaine, et vous n'avez pas voulu les garder. Ah, si j'avais mes deux jambes. Et qu'est-ce que vous feriez, capitaine ? Demanda madame de Villanera. Ce que je ferais, madame. Mon pays n'a pas d'ambition. J'en aurai pour lui. Je lui donnerai les îles Ioniennes, Malte, les Indes, la Chine, le Japon. Et je ne souffrirai pas de monarchie universelle. Monsieur de Bretignères, dit Germaine, ressemble à ce précepteur dont l'élève avait dérobé une figue. Il lui fit un sermon sur la gourmandise et mangea la figue à la péroraison. Le capitaine s'arrêta court. Il était rouge jusqu'aux oreilles. « Je crois, dit-il, que je suis allé plus loin que ma pensée. Où en étions-nous ?
Nous étions partout, dit le comte Dandolo.
C'est juste, puisque nous parlions de l'Angleterre. Croyez-vous que si l'histoire de Kid Cheou était arrivée à un bâtiment anglais où se fut contenté de bombarder la ville ? Pas si bête, l'Angleterre y aurait gagné un bon traité de commerce. 100 millions d'argent comptant et 50 lieues de pays.
« Vous croyez ? » demanda M. Dandolo.
« J'en suis sûr.
Eh bien, sur quoi discutons-nous ? Nous sommes du même avis. »
« Qu'est-ce que l'histoire de Kid Cheou ? » demanda Germaine.
« Vous n'avez pas lu cela, madame ? »
« Nous ne lisons pas un journal, mon cher comte, excepté vous. »
« Eh bien, Kid Cheou est une grosse affaire. » Les Chinois ont tué 2 missionnaires et un commandant français. Les Français ont rasé la ville, si bien que le nom même n'en est pas resté sur la carte. On se demande ce qu'il adviendra de tout cela, et je pense qu'il n'en adviendra rien du tout.
Monsieur de Villanera se mêla pour la première fois à la conversation. « L'histoire dont vous parlez est-elle récente ? » demanda-t-il au comte Dandolo.
« Mais toute fraîche, elle est arrivée par le dernier paquebot. Vous n'avez pas entendu parler de la naïade ? Vous n'avez pas lu la mort du capitaine Chermidy ?»
Le comte de Villanera pâlit. Germaine le regarda fixement pour surprendre un symptôme de joie. La vieille comtesse se leva de table et M. Dandolo passa au salon sans avoir conté l'histoire de Kid Cheou. Germaine profita du moment où l'on servait le café à ses hôtes pour entraîner M. de Villanera jusqu'au fond du jardin. Le soleil était couché depuis 2 heures et la nuit était chaude comme un jour d'été. Les deux époux s'assirent ensemble sur un banc rustique au bord de la mer. La lune n'avait pas encore paru sur l'horizon, mais les étoiles filantes sillonnaient le ciel en tous sens et le flot éclairait la plage de ses lueurs phosphorescentes. Don Diego était encore tout ébloui de la nouvelle qu'il venait d'entendre. Il avait reçu une secousse violente, mais l'impression avait été si soudaine qu'il ne s'en rendait pas compte à lui-même et qu'il ne savait pas encore si c'était plaisir ou peine. Il ressemblait à l'homme qui vient de tomber d'un toit et qui se tâte pour savoir s'il est mort ou vif. 1000 réflexions rapides traversaient confusément son esprit, comme des torches qui courent dans la nuit sans dissiper les ténèbres. Germaine n'était ni plus calme ni plus rassise. Elle sentait que sa vie allait se décider en 1 heure et que son médecin n'était plus M. de Brie, mais le comte de Villanera. Cependant, ces 2 jeunes êtres, remués jusqu'au fond de l'âme par une émotion violente, restèrent quelques instants côte à côte dans un profond silence. Un pêcheur qui rasait la rive les prit assurément pour 2 amants heureux, absorbés dans la contemplation de leur bonheur. Germaine parla la première. Elle se tourna vers son mari, le prit par les 2 mains et lui dit d'une voix étouffée « Don Diego, le saviez-vous ? » Il répondit « Non, Germaine. Si je l'avais su, je vous l'aurais appris. Je n'ai pas de secret pour vous. »
« Et que dites-vous de la nouvelle ? Vous a-t-elle gênée ou soulagée ? »
« Je ne sais que répondre, et vous me jetez dans un cruel embarras.
Laissez-moi le temps de me remettre et de compter avec moi-même. Cet événement ne peut me faire aucun plaisir, vous le savez bien. Mais si je vous dis qu'il me gêne, vous en conclurez que j'ai pris des engagements pour cette fatale échéance. N'est-ce pas là ce que vous pensez ?
Je ne suis pas bien sûre de ce que je pense, Don Diego. Mon cœur bat si fort qu'il me serait difficile d'entendre autre chose. La seule idée que je vois clairement, c'est que cette femme est libre. Si elle vous a promis d'être bientôt veuve, elle a tenu sa parole avant vous. Elle arrive la première au rendez-vous que vous lui avez donné, et je crains...
Vous craignez ?
Je crains d'être dans mon tort, puisque ma vie vous sépare de votre bonheur, et que ma santé vous ôte jusqu'à l'espérance.
Votre vie et votre santé sont des présents de Dieu, Germaine. C'est un miracle du ciel qui vous a conservé. Et maintenant que je sais quelle femme vous êtes, je bénis du fond de mon cœur les décrets de la Providence.
Je vous remercie, Don Diego, et je vous reconnais à ce langage doux et religieux. Vous êtes trop bon chrétien pour vous révolter contre un miracle. Mais ne regrettez-vous rien ? Parlez-moi sans ménagement. Je me porte assez bien pour tout entendre.
Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne vous avoir pas donné mon premier amour.
Que vous êtes vraiment bon ! Cette femme n'a jamais été digne de vous. Je ne l'ai jamais vue, mais je la déteste d'instinct, et je la méprise.
Il ne faut pas la mépriser, Germaine. Je ne l'aime plus parce que mon cœur est plein de vous, et qu'il n'y reste point de place pour l'image d'une autre. Mais vous avez tort de la mépriser, je vous le jure.
Pourquoi voulez-vous que j'aie plus d'indulgence que le monde ? Elle a failli à tous ses devoirs, tromper l'honnête homme qui lui avait donné son nom. Comment une femme peut-elle trahir son mari ?
Elle est coupable aux yeux du monde, mais il ne m'est pas permis de la blâmer. Elle m'aimait.
Qui ne vous aimerait pas, mon ami ? Vous êtes si bon, si grand, si noble, si beau. Ne vous en défendez pas et ne hochez pas la tête. Je n'ai pas plus mauvais goût qu'une autre et je sais bien ce que je dis. Vous ne ressemblez ni à Monsieur de Brie, ni à Gaston de Vitré, ni à Spiro Dandolo, ni à tous ceux qui ont du succès auprès des femmes. Et pourtant, c'est en vous voyant la première fois que j'ai compris que l'homme était la plus belle créature de Dieu.
Vous m'aimez donc un peu, Germaine ?
Il y a longtemps, allez, depuis le jour où vous êtes entrée à l'hôtel de Sanlier. C'était pourtant bien mal ce que vous veniez faire chez nous. Quand le docteur avait proposé le marché à mes parents, j'avais cru à épouser un vilain homme. Je me promettais de vous souffrir avec patience et de vous quitter sans regret. Mais lorsque je vous ai trouvé au salon, j'ai été honteuse pour vous, et j'ai regretté qu'un si vilain calcul fût né dans une tête si noble et si intelligente. Alors je me suis mise à vous maltraiter. Vous comprenez pourquoi. Je serais morte de dépit si vous aviez deviné que je vous aimais. Cela n'était pas dans nos conventions. Pendant tout le voyage en Italie, je me suis appliquée à vous faire de la peine. Croyez-vous que je me serais conduite avec tant d'ingratitude si vous m'aviez été indifférent ? Mais j'étais furieuse de voir que vous ne me traitiez si bien que pour l'acquis de votre conscience. Et puis, malgré moi, je pensais à l'autre qui vous attendait à Paris. Et puis, je craignais de prendre une douce habitude d'amour et de bonheur que la mort serait venue rompre. Et puis, j'étais bien malade et je souffrais cruellement. Le jour où vous avez pleuré par la portière, je vous ai vu, et j'avais bonne envie de vous demander pardon et de vous sauter au cou, mais la fierté m'a retenue. Je suis de grande race, mon pauvre ami, et je suis la première de mon sang qu'on ait vendue pour de l'argent. Cependant, j'ai bien failli me trahir le soir de Pompéi. Vous en souvenez-vous ? Moi, je n'ai rien oublié, ni vos bonnes paroles, ni mes duretés, ni vos soins si tendres et si patients, ni le mal que je vous ai fait. Je vous ai servi un calice bien amer, et vous l'avez bu jusqu'à la lie.
Il est vrai que je n'ai pas été trop heureuse non plus. Je n'étais pas sûre de vous. Je craignais de me tromper sur le sens de vos bontés et de prendre des marques de pitié pour des témoignages d'amour. Ce qui m'a un peu rassurée, c'est le plaisir que vous aviez à rester avec moi. Quand vous marchiez dans le jardin autour de mon divan, je vous suivais du coin de l'œil, et souvent je feignais de dormir pour vous attirer plus près. Je n'ai pas besoin d'ouvrir les yeux pour savoir que vous êtes là. Je vous vois à travers mes paupières. En quelque endroit que vous soyez, je vous devine, et je serai femme à vous trouver les yeux fermés. Quand vous êtes auprès de moi, mon cœur se dilate et se gonfle si fort que ma poitrine en est pleine. Quand vous parlez, votre voix bourdonne dans mes oreilles et je m'enivre à vous entendre. Chaque fois que ma main touche la vôtre, je me sens émue dans tout mon corps et j'éprouve je ne sais quel doux frisson à la racine des cheveux. Quand vous vous éloignez pour un instant, quand je ne peux ni vous voir ni vous entendre, il se fait un grand vide autour de moi et je sens un manque qui m'accable. Maintenant, Don Diego, dites-moi si je vous aime, car vous avez plus d'expérience que moi, et vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus. Je ne suis qu'une petite ignorante, mais vous devez bien vous rappeler si c'est ainsi qu'on vous aimait à Paris. » Cette confession naïve descendit comme une rosée dans le cœur de Don Diego. Il en fut si délicieusement rafraîchi qu'il oublia non seulement les soucis présents, mais encore les plaisirs passés. Une lumière nouvelle éclaira son esprit. Il compara d'un seul coup d'œil ses anciennes amours, agitées et bourbeuses comme un ruisseau d'orage, à la douce limpidité du bonheur légitime. C'est l'histoire de tous les jeunes maris. Le jour où l'on repose sa tête sur l'oreiller conjugal, on s'aperçoit avec une douce surprise qu'on n'avait jamais bien dormi. Le comte baisa tendrement les deux mains de Germaine et lui dit « Oui, tu m'aimes, et personne ne m'a jamais aimé comme toi. Tu m'emportes dans un monde nouveau, plein d'honnêtes délices et de plaisirs sans remords. Je ne sais pas si je t'ai sauvé la vie, mais tu as payé largement ta dette en ouvrant mes yeux aveugles à la sainte lumière de l'amour. Aimons-nous, Germaine, et lâchons la bride à nos cœurs. Dieu, qui nous a unis par le mariage, se réjouira de compter dans son vaste sein deux heureux de plus. Oublions la terre entière pour être l'un à l'autre. Fermons l'oreille à tous les bruits du monde, qu'ils viennent de Chine ou de Paris. Voici le paradis terrestre. Vivons-y pour nous seuls, en bénissant la main qui nous y a placés. « Vivons pour nous, dit-elle, et pour ceux qui nous aiment. Je ne serais pas heureuse si je n'avais pas notre mère et notre enfant avec nous. Ah, pour eux, je les ai aimés effrontément dès les premiers jours. Comme ils vous ressemblent, mon ami. Quand le petit Gomez vient jouer au jardin, il me semble que je vois marcher votre sourire dans l'herbe. Je suis bien heureuse de l'avoir adopté. Cette femme ne me l'enlèvera jamais. » N'est-il pas vrai? La loi me l'a donné pour toujours. Il est mon héritier, mon fils unique. Non, Germaine, reprit le comte, il est ton fils aîné. Germaine étendit les bras vers son mari, lui noua les mains autour du cou, l'attira vers elle et posa doucement la bouche sur ses lèvres. Mais l'émotion de ce premier baiser fut plus forte que la pauvre convalescente. Ses yeux se voilèrent et tout son corps faiblit. Lorsqu'elle fut remise de cette secousse, elle regagna la maison au bras de son mari. Elle s'appuyait sur lui tout entière et marchait à demi suspendue, comme un enfant qui fait ses premiers pas. « Vous voyez, lui dit-elle, je suis encore bien faible malgré les apparences. Je me croyais robuste et voilà qu'un rien de bonheur me jette à bas. Ne me dites pas de trop bonnes paroles, ne me rendez pas trop heureuse. Ménagez-moi jusqu'à ce que je sois sauvée. Il serait trop triste de mourir quand la vie commence si bien. Maintenant, je vais hâter ma guérison et me soigner de toutes mes forces. Rentrez au salon. Moi, je cours me cacher dans ma chambre. À demain, mon ami. Je vous aime. » Elle monta chez elle et se jeta sur son lit, toute émue et toute confuse. Un point lumineux qui brillait dans un coin attira son attention. La flamme de la veilleuse se reflétait dans un petit globe de l'iodomètre. Elle envoya une bénédiction à cet appareil bienfaisant qui lui avait rendu la vie et qui devait lui rendre la force en quelques jours. L'idée lui vint de hâter sa guérison en prenant une bonne quantité d'iode à l'insu du docteur. Elle disposa l'appareil, l'approcha de son lit et but avidement la vapeur violette. Elle se hâtait avec joie. Elle n'éprouvait ni dégoût ni fatigue. Elle avalait à longs traits la santé et la vigueur. Elle était fière de prouver au docteur qu'il avait eu trop de prudence. Elle se complaisait dans une folie héroïque et risquait sa vie par amour pour Don Diego. On n'a su ni quelle quantité d'iode elle avait aspirée, ni combien de temps elle avait prolongé cette fatale imprudence. Quand la vieille comtesse se déroba du salon pour venir savoir de ses nouvelles, elle trouva l'appareil brisé sur le parquet et la malade en proie à une fièvre violente. On la soigna comme on put jusqu'à l'arrivée de Monsieur de Brie, qui revint à cheval vers le milieu de la nuit. Tous les convives couchèrent à la villa d'Andolo pour attendre des nouvelles. Le docteur fut épouvanté de l'agitation de Germaine. Il ne savait s'il fallait l'attribuer à un usage immodéré de l'iode ou à quelque émotion dangereuse. Madame de Villanera accusait secrètement le comte d'Andolo. Don Diego s'accusait lui-même. Le lendemain, Monsieur de Brie reconnut dans les poumons une inflammation qui pouvait causer la mort. Il appela le docteur Delvignotis et deux de ses confrères. Les médecins différaient sur la cause du mal, mais aucun n'osa répondre de le guérir. Monsieur de Brie avait perdu la tête, comme un capitaine de vaisseau qui trouve un banc de rochers à l'entrée du port. Monsieur Delvignotis, un peu plus calme, quoiqu'il ne pût se défendre de pleurer, montra timidement une lueur d'espérance. « Peut-être, dit-il, avons-nous affaire à une inflammation adhésive qui rejoindra les cavernes et réparera tous les désordres causés par la maladie. » Le pauvre petit docteur écoutait ce propos en branlant tristement la tête. Autant valait dire à un architecte « Votre maison n'est pas d'aplomb, mais il peut survenir un tremblement de terre qui la remette en équilibre. » Tout le monde était d'accord que la maladie entrait dans une crise, mais M. Delvignotis lui-même n'osait pas affirmer qu'elle ne se terminerait point par la mort. Germaine avait le délire. Elle ne reconnaissait plus personne. Dans tous les hommes qui l'approchaient, elle croyait voir Don Diego. Dans toutes les femmes, Madame Chermidy. Ses discours confus étaient un singulier mélange de tendresse et d'imprécation. Elle demandait à chaque instant son fils. On lui apportait le petit marquis. Elle le repoussait avec humeur. « Ce n'est pas lui, » disait-elle. « Amenez-moi mon fils aîné, le fils de la femme. Je suis sûre qu'elle l'a repris. » L'enfant comprenait vaguement le danger de sa petite mère, quoiqu'il n'eût encore aucune notion de la mort. Il voyait pleurer tout le monde, et il pleurait en poussant de grands cris. On vit alors combien la jeune femme était chère à tous ceux qui l'entouraient. Pendant 8 jours, les amis de la maison campèrent autour d'elle, couchant où ils pouvaient, mangeant ce qu'ils trouvaient, occupés de la malade et nullement d'eux-mêmes. Les deux médecins étaient enchaînés au chevet de Germaine. Le capitaine Bretinière ne pouvait tenir en place. Il arpentait le jardin et la maison. On entendait partout que le pas saccadé de sa jambe de bois. Monsieur Stevens abandonna ses affaires, son tribunal et ses habitudes. Madame de Vitré se vit infirmière sous les ordres de la comtesse. Les deux d'Andolo couraient matin et soir à la ville pour chercher des médecins qui ne savaient que dire et des médicaments dont on ne faisait rien. Le peuple des environs était dans l'anxiété. Les nouvelles de Germaine se colportaient matin et soir dans tous les petits châteaux du voisinage. De tous côtés affluaient les remèdes de famille, les panacées secrètes qui se transmettent de père en fils. Don Diego et Gaston de Vitré avaient dans leur douleur une singulière ressemblance. Vous auriez dit les deux frères de la mourante. L'un et l'autre vivaient à l'écart, assis sous un arbre ou sur le sable de la mer, plongés dans une stupeur sèche et sans larmes. Si le comte avait eu le loisir d'être jaloux, il l'aurait été du désespoir jaloux de cet enfant. Mais chacun des assistants était trop occupé du danger de Germaine pour observer la physionomie du voisin. Madame de Vitré, seule, jetait de temps en temps un regard d'anxiété sur son fils, et bientôt elle courait au lit de Germaine, comme si un instinct secret lui avait dit que c'était travailler au salut de Gaston. La douairière de Villanera était terrible à voir. Cette grande femme noire, sale et décoiffée, laissait pendre ses cheveux sous un bonnet en guenilles. Elle ne pleurait pas plus que son fils, mais on lisait un poème de douleur dans ses grands yeux hagards. Elle ne parlait à personne, elle ne voyait personne. Elle permettait à ses hôtes de se faire les honneurs de la maison. Tout son être était acharné au salut de Germaine. Toute son âme luttait contre le danger présent avec une volonté de fer. Jamais le génie du bien n'a emprunté une figure plus farouche et plus terrible. On lisait sur son visage un dévouement furieux, une amitié crispée, une tendresse exaspérée. Ce n'était ni une femme ni une garde malade, mais un démon femelle qui se colletait avec la mort. Mais la figure de Mathieu Mantoux s'épanouissait doucement au soleil. Comme tous les maîtres se disputaient la besogne des domestiques, ce bon domestique s'adjugeait les loisirs d'un maître. Il s'informait tous les matins de la santé de Germaine, uniquement pour savoir s'il n'aurait pas bientôt 1200 francs de rente. Il attribuait la mort de sa maîtresse au verre d'eau sucrée qu'il lui avait préparé si patiemment tous les soirs. Et il pensait, en se frottant les mains, que tout vient à point à qui sait attendre. À midi, il faisait son second déjeuner. Pour digérer à l'aise et en propriétaire, il se promenait une heure ou deux autour du petit bien sur lequel il avait jeté son dévolu. Il remarquait que les haies étaient mal entretenues, et il se promettait de les appuyer d'un treillage, dans la crainte des voleurs. Le 6 septembre, M. Delvignotis lui-même avait perdu toute espérance. Mathieu Mantoux le sut, et il écrivit une petite lettre à Mademoiselle, Mademoiselle Le Tas, chez Madame Chermidy, rue du Cirque, Paris. Le même jour, M. Lebris écrivit à M. de la Tour d'Ambleuse. « Monsieur le Duc, je n'ose pas vous appeler auprès d'elle. Quand vous recevrez cette lettre, elle ne sera plus. Ménagez Madame la Duchesse. » Chapitre 11. La veuve Chermidy. La lettre de Mantoux et la promesse formelle de la mort de Germaine arrivèrent le 12 septembre chez Madame Chermidy. La belle Arlésienne avait perdu tout espoir et toute patience. On ne lui écrivait point de Corfou. Elle était sans nouvelles de son amant et de son fils. Le docteur, occupé de soins plus importants, ne lui avait pas même fait compliment de son veuvage. Elle commençait à douter de M. de Villanera. Elle se comparait à Calypso, à Médée, à la blonde Ariane et à toutes les abandonnées de la table. Elle s'étonnait quelquefois de voir que son dépit tournait à l'amour. Elle se surprenait à soupirer sans témoin et de la meilleure foi du monde. Le souvenir des 3 ans qu'elle avait passés avec le comte chatouillait étrangement la mémoire de son cœur. Elle se reprochait, entre autres sottises, de lui avoir tenu la bride trop courte, la dragée trop haute, de ne l'avoir point rassasiée de bonheur et tuée de tendresse. « C'est ma faute, » pensait-elle. Je l'ai accoutumé à se priver de moi. Si j'avais su le prendre, je serais devenue la nécessité de sa vie. Je n'aurais qu'à faire un signe. Il quitterait sa femme, sa mère et tout. Elle se demanda souvent si l'absence ne lui faisait pas tort dans l'esprit de Don Diego. Elle médita ce dicton vulgaire, loin des yeux, loin du cœur. Elle songea à s'embarquer pour les îles Ioniennes, à tomber comme une bombe dans la maison de son amant et à le reprendre de haute lutte. Il suffirait d'un quart d'heure pour ranimer des feux mal éteints et renouer une habitude qui n'était encore qu'interrompue. Elle se voyait aux prises avec la vieille comtesse et Germaine. Elle les foudroyait de sa beauté, de son éloquence et de sa volonté. Elle prenait son fils dans ses bras, elle fuyait avec lui, et le sourire irrésistible de l'enfant entraînait le père. « Qui sait ? » se disait-elle, « si une scène bien jouée ne tuerait pas la malade. On voit des femmes bien portantes s'évanouir au spectacle. Un bon drame de ma façon la ferait peut-être évanouir pour toujours. » Un sentiment plus humain, et partant moins vraisemblable, lui faisait regretter l'absence de son fils. Elle l'avait porté et mis au monde. Elle était sa mère, après tout. Et elle regrettait de s'en être dessaisie au profit d'une autre. L'amour maternel trouve à se loger partout. C'est un hôte sans préjugés qui souffre le voisinage des plus mauvaises passions. Il vit à l'aise dans le cœur le plus dépravé et l'âme la plus perdue. Madame Chermidy pleura quelques larmes de bon aloi en pensant qu'elle avait aliéné la propriété de son fils et abdiqué le nom de mère. Elle était sincèrement malheureuse. C'est au théâtre que le malheur vrai est un privilège de la vertu. Les distractions ne lui auraient pas manqué et elle n'avait qu'à choisir. Mais elle savait par expérience que le plaisir ne console de rien. Depuis plus de 10 ans, sa vie avait été bruyante et agitée comme une fête. Mais c'est la paix de l'âme qui en avait payé tous les frais. Et il n'y a rien de plus vide, de plus inquiet et de plus misérable que l'existence d'une femme qui fait son chemin dans les plaisirs. L'ambition qu'il avait soutenue depuis son mariage lui fut désormais de peu de ressources. C'était comme un roseau fêlé qui plie sous la main du voyageur. Elle était assez riche pour dédaigner d'accroître sa fortune. Il y a peu de différence entre 1 million de revenus et 500 000 francs de rente. Quelques chevaux de plus à l'écurie, quelques laquais de plus dans la cour, n'ajoutent presque rien au bonheur du maître. Ce qui l'aurait amusé pendant quelque temps, c'était un beau nom à promener dans le monde. Elle songea plus d'une fois à s'en procurer un par voie légitime, et elle en trouva 50 à choisir. Il y a toujours des noms à vendre dans Paris, mais elle avait le droit de se montrer difficile. Quand on a failli s'appeler Madame de Villanera. Elle ne se décida point. En attendant, elle prit la fantaisie de donner publiquement un successeur à Don Diego. Peut-être viendrait-il réclamer son bien lorsqu'il le verrait aux mains d'un autre. Mais elle craignit de fournir des armes à ses ennemis. Germaine n'était pas encore sauvée. C'était jouer gros jeu. Il ne fallait pas se fermer la porte du mariage. D'ailleurs, elle eut beau chercher autour d'elle, elle ne trouva pas un homme qui valût un caprice et qui fût digne de succéder pour un jour à Monsieur de Villanera. Les surnuméraires qui faisaient leur stage dans son salon n'ont jamais su combien ils avaient été près du bonheur. Elle ne trouva rien de mieux pour occuper son loisir que d'achever la ruine morale du vieux duc. Elle accomplit la tâche qu'elle s'était tracée, avec l'attention minutieuse, le soin patient, la persévérance infatigable de cette sultane oisive, qui, en l'absence du maître, arracha une à une toutes les plumes d'un vieux perroquet. Certes, elle aurait mieux aimé se venger directement de Germaine, mais Germaine était loin. Si la duchesse se fût trouvée à sa portée, elle aurait donné la préférence à la duchesse. Mais la duchesse ne sortait de sa chambre que pour aller à l'église. Madame Chermidy ne pouvait la rencontrer là. On pouvait bien affamer ce ménage ducal, mais l'opération aurait pris du temps. En retrouvant de l'argent, les Latour d'Embleuse avaient relevé leur crédit. La belle ennemie de la famille n'avait que le duc en son pouvoir. Elle jura de lui faire perdre la tête, et elle y réussit. Dans les bains russes, lorsque le patient sort d'une étuve brûlante, lorsque son corps s'est accoutumé par degrés à une haute température, que la chaleur a dilaté largement tous les pores de sa peau, qu'un sang précipité circule dans ses veines et que sa figure s'épanouit toute rouge comme une pivoine en fleurs, on le conduit doucement sous un robinet d'eau froide. Une douche glacée lui tombe sur la tête et le transit jusqu'au fond des eaux. Madame Chermidy traita le duc par la même méthode. « Les Russes s'en trouvent bien, dit-on. » Le pauvre vieillard s'en trouva mal. Il fut victime de la coquetterie la plus odieuse qui ait jamais torturé le cœur d'un homme. Madame Chermidy lui persuada qu'elle l'aimait. Le tas lui en fit le serment, et s'il avait consenti à se payer de parole, il aurait été le plus heureux sexagénaire de Paris. Il passait sa vie rue du Cirque, et il y souffrait le martyre. Il y dépensait tous les jours autant d'éloquence et de passion, de raisonnement et de prière, de vraie et de fausse logique, que Jean-Jacques Rousseau en a ramassé dans la Nouvelle Héloïse. Tous les soirs, on le mettait à la porte avec de bonnes paroles. Il jurait de ne plus revenir, il employait une longue nuit sans sommeil à maudire l'auteur de son supplice, et le lendemain, il courait chez son bourreau avec une impatience sénile. Toute son intelligence, toute sa volonté, tous ses vices s'étaient absorbés et confondus dans cette passion unique. Il n'était plus ni mari, ni père, ni homme, ni gentilhomme. Il était le patito de Madame Chermidy. L'expérience réussit tellement bien qu'heureux ou malheureux, le pauvre homme devait y laisser la vie. Un supplice prolongé le tuait lentement. La grâce qu'il demandait l'aurait tué du coup. Après un été de souffrance quotidienne, ses facultés intellectuelles avaient baissé sensiblement. Il n'avait presque plus de mémoire. Du moins, il oubliait tout ce qui ne touchait pas à son amour et ne s'intéressait plus à rien. Les affaires privées et publiques, sa maison, sa femme, sa fille, tout lui était indifférent et étranger. La duchesse le soignait comme un enfant lorsqu'il restait par hasard auprès d'elle. Malheureusement, il n'était pas encore assez enfant pour qu'on pût l'enfermer au logis. Lorsqu'il reçut la lettre du docteur Lebris, il la parcourut deux ou trois fois sans la comprendre. Si la duchesse avait été là, il l'aurait priée de la lire et de l'expliquer. Mais il rompit le cachet sur le seuil de la porte en courant à la rue du Cirque, et il était trop pressé pour rebrousser chemin. À force de relire, il devina qu'il s'agissait de sa fille. Il haussa les épaules et se dit tout en courant « Ce Lebris est toujours le même. Je ne sais pas ce qu'il a contre ma fille. La preuve qu'elle ne doit pas mourir, c'est qu'elle se porte bien. » Cependant, il réfléchit que le docteur pouvait bien dire la vérité. Cette idée lui fit peur. « C'est un grand malheur pour nous, » disait-il en courant de plus belle. « Je suis un père inconsolable. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais l'annoncer à Honorine. Elle me plaindra bien, car elle a bon cœur. Elle aura pitié de moi. Elle essuiera mes larmes et... qui sait ?» Il souriait d'un air hébété en entrant dans le salon. Jamais Madame Chermidy n'avait été si radieuse et si belle. Sa figure était un soleil. Le triomphe éclatait dans ses yeux. Son fauteuil luisait comme un trône et sa voix sonnait comme une fanfare. Elle se leva pour le duc. Ses pieds ne touchaient pas le tapis. Et sa tête superbe de joie semblait monter jusqu'au lustre. Le vieillard s'arrêta tout hébété et tout pantois en la voyant ainsi transfigurée. Il balbutia quelques mots inintelligibles et il se laissa lourdement tomber dans un fauteuil. Madame Chermidy vint s'asseoir auprès de lui. « Bonjour, monsieur le duc !» lui cria-t-elle. « Bonjour et adieu !» Il pâlit et répéta stupidement. « Adieu ? » ?»« Oui, adieu. Vous ne me demandez pas où je vais ?»« Si. Eh bien, soyez satisfait, je vais à Corfou. »
À propos, dit-il, je crois bien que ma fille est morte. Le docteur me l'a écrit ce matin. Je suis bien malheureux, Honorine, et vous devriez avoir pitié de moi.
Ah, vous êtes malheureux, et la duchesse aussi est malheureuse. Et la vieille Villanera doit pleurer des larmes noires sur ses joues basanées. Mais moi, je ris, je triomphe, j'enterre, j'épouse, je règne.
Elle est morte. Elle a enfin payé sa dette. Elle me rend tout ce qu'elle m'avait pris. Je rentre en possession de mon amant et de mon fils.
Pourquoi me regardez-vous avec ces yeux étonnés? Est-ce que vous croyez que je vais me contraindre? C'est bien assez d'avoir avalé ma rage pendant 8 mois. Tant pis pour ceux que mon bonheur offusque. Ils n'ont qu'à fermer les yeux. Moi, j'éclate. »
Cette joie effrontée rendit au vieillard une lueur de raison. Il se leva ferme sur ses jambes et dit à la veuve « Songez-vous bien à ce que vous faites. Vous vous réjouissez devant moi de la mort de ma fille.
Et vous, reprit-elle impudemment, vous vous réjouissiez bien de sa vie. Qui est-ce qui prenait soin de m'apporter de ses nouvelles? Qui est-ce qui venait me dire en face « Elle va mieux » Qui est-ce qui me forçait de lire ses lettres et celles du docteur Lebris? Voici tantôt 8 mois que vous m'assassinez de sa santé. C'est bien le moins que vous me donniez un quart d'heure pour me régaler de sa mort.
Mais, Honorine, vous êtes une femme horrible.
Je sais ce que je suis. Si votre fille avait vécu, comme j'en ai été menacée, on ne se serait pas caché de moi. On se serait promené tous les jours au bois, avec Don Diego, avec mon fils, et j'aurais vu cela de ma voiture. On aurait eu un hôtel à Paris, et je me serais morfondu devant la porte. On aurait mis sur ses cartes de visite le nom de Villanera, qui est à moi. Je l'ai, parbleu, bien gagné. Et vous ne voulez pas que je prenne ma revanche?
Mais vous aimez donc encore, monsieur de Villanera?
Pauvre duc, vous croyez qu'on oublie du jour au lendemain un homme comme Don Diego? Vous pensez qu'on met au monde un enfant comme mon fils, qui est né marquis, pour en faire cadeau à une poitrinaire? Vous admettez que j'ai demandé à Dieu pendant 3 ans la mort de mon mari, moi qui ne prie jamais, pour ne rien faire de ma liberté. Vous supposez que cher Midi est allé se faire tuer à Kitcheou par les petits Chinois pour que je reste veuve à perpétuité?
Vous allez épouser le comte de Villanera?
Mais je m'en flatte!
Et moi?
Vous, mon brave homme, allez consoler votre femme. C'est par là que vous auriez dû commencer.
Qu'est-ce que je vais lui dire?
Dites-lui tout ce que vous voudrez. Adieu, j'ai mes mal à faire. Avez-vous besoin d'argent?
Le duc trahit son dégoût par un haut-le-corps. Madame Chermidy s'en aperçut.
« Est-ce que notre argent vous répugne ?» lui dit-elle. « À votre aise, vous n'en aurez plus. »
Le vieillard s'en alla sans savoir où, comme un homme ivre. Il erra jusqu'au soir dans les rues de Paris. Vers 10 heures, la faim le prit, il monta dans une voiture et se fit conduire au club. Il était si changé que Monsieur de Sanglier fut le seul qui le reconnut.
« Sur quoi diable avez-vous marché ?» lui demanda le baron. Vous avez la figure à l'envers, et l'on dirait que vous chancelez. Asseyez-vous ici, et causons.
Je le veux bien, dit le duc.
Comment va la duchesse? J'arrive de la campagne, et je n'ai pas encore fait une visite.
Comment va la duchesse?
Oui, comment va-t-elle?
Elle va pleurer.
Il est fou, pensa le baron.
Le duc ajouta, sans changer de ton, « Je crois que Germaine est morte et qu'Honorine s'en réjouit. Je trouve cela affreux et je le lui ai dit moi-même. »«
Germaine, mon pauvre ami, songez à ce que vous dites. Germaine, Madame de Villanera est morte ?»«
Madame de Villanera, c'est Honorine. Elle va se marier avec le comte. Tenez, j'ai la lettre dans ma poche.
Mais que pensez-vous de la conduite d'Honorine ?»
Le baron lut d'un coup d'œil la lettre du docteur.
« Y a-t-il longtemps que vous avez appris cela ? » dit-il au duc.
« Ce matin, en allant chez Honorine. »
« Et la duchesse, sait-elle quelque chose ? » Non, je ne sais pas comment lui apprendre. Je voulais demander à Honorine.
Eh, le diable soit d'Honorine!
C'est ce que je dis.
On appela le baron pour rentrer au whist. Il répondit sans se déranger qu'il était en affaires et pria quelqu'un de prendre son jeu. Il voulait achever la confession. Mais le duc l'interrompit en disant d'une voix creuse
« J'ai faim, je n'ai pas mangé d'aujourd'hui. »
« Est-il vrai ?»«
Oui, faites-moi servir à dîner. Il faudra aussi que vous me prêtiez de l'argent, je n'en ai plus. »«
Comment ?»«
Je sais bien, j'avais 1 000 000, mais je l'ai donné à Honorine. »
Le duc mangea avec l'appétit vorace d'un fou. Après dîner, ses idées s'éclaircirent. C'était un esprit fatigué plutôt que malade. Il raconta au baron la passion insensée qui le possédait depuis 6 mois. Il lui expliqua comment il s'était dépouillé de tout pour Madame Chermidy. Le baron était un excellent homme. Il fut tristement ému d'apprendre que cette maison qu'il avait vue se relever en 2 mois était tombée plus bas que jamais. Il plaignit surtout la duchesse, qui devait infailliblement succomber à tant de coups. Il prit sur lui de lui annoncer par degrés la maladie et la mort de Germaine. Il imposa ses soins au vieux duc et s'appliqua à redresser son entendement affaibli. Il le rassura sur les suites de sa folle générosité. Il était évident que monsieur de Villanera ne laisserait point son beau-père dans le besoin. Il étudia, à travers les aveux et les réticences du vieillard, le singulier caractère de Madame Chermidy. L'autorité d'un esprit sain est toute puissante sur un cerveau malade. Après 2 heures de conversation, monsieur de la Tour d'Embleuse débrouilla le chaos de ses idées, pleura la mort de sa fille, craignit pour la santé de sa femme, regretta les sottises qu'il avait faites et estima la veuve Chermidy à sa juste valeur. Monsieur de Sanglier le reconduisit à sa porte, bien pansé, sinon bien guéri. Le lendemain, de bonne heure, le baron fit une visite à la duchesse. Il arrêta sur le seuil de la porte le vieux duc qui voulait sortir, et il le força de rentrer avec lui. Il ne le quitta point des yeux pendant 3 jours. Il le promena, l'amusa, et parvint à le distraire de l'unique pensée qui l'agitait. Le 16 septembre, il le conduisit lui-même à l'hôtel de l'impitoyable Honorine et lui prouva, parlant à la personne de son concierge, qu'elle était partie avec le tas pour les îles Ioniennes. Le duc fut moins ému de cette nouvelle qu'on aurait pu s'y attendre. Il vécut paisiblement enfermé chez lui, s'occupa beaucoup de sa femme et lui démontra, avec une délicatesse extrême, que Germaine n'avait jamais été guérie et qu'on devait s'attendre à tout. Il s'intéressa aux moindres détails du ménage, reconnut la nécessité de quelques emplettes, puisa 2 000 francs dans la bourse de son ami Sanglier, serra l'argent dans sa poche et partit pour Corfou le 20 septembre au matin, sans prendre congé de personne.